Dans la nuit, un cri s'est fait entendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bienveillance envers tous les êtres humains. Qu'est-ce qu'il a pu dire encore, ce cri dans la nuit? Tout est accompli. Alléluia, on l'a chanté, tout est accompli. Ce cri dans la nuit, il a pu dire aussi, et ça c'est après la croix, après la résurrection, il a pu dire, voici l'époux. Et en fait, le lien commun entre tous ces cris, c'est qu'ils apparaissent au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres. Et c'est ce qu'on a chanté avec lumière du monde venue dans l'obscurité. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Noël est une bonne nouvelle, mais qui surgit dans un moment qui ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que moi, en tout cas, à Noël souvent, et ma voix change pour attirer votre attention, à Noël souvent, j'appréhende un peu ce moment de l'année. Qu'il y ait un virus qu'on connaît bien, ou une autre maladie, ou que ce soit la grippe, ou des choses, des fois je me dis, en automne, je me dis, voilà, on va éteindre la lumière bientôt. Il y a le froid qui va arriver. Et c'est vrai que c'est réjouissant pour beaucoup d'activités qu'on fait en hiver, mais pour moi personnellement, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, il y avait aussi un peu d'appréhension. J'aime bien l'été où on a du soleil, on a de l'énergie aussi. Il y a des gens comme ça qui préfèrent aussi justement se déplacer même carrément pour pouvoir profiter du soleil ou d'un autre environnement. Et je pense en fait que la Bible, ce qu'elle nous dit, que Jésus, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, la bonne nouvelle surgit dans une atmosphère de mauvaise nouvelle ou après une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a eu une chute, il y a eu une séparation de Dieu et on est dans les ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ces ténèbres, un cri surgit et qui vient nous rassurer, qui vient nous réveiller, qui vient nous révéler que la mort, ce n'est pas une fatalité. Oui, c'est le salaire du péché, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ça, c'est le message que j'ai ce matin reçu de la part de Dieu, sur lequel Dieu attire mon attention et sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Et je vous invite à prier pour ça maintenant, avec ce cri qui surgit dans la nuit. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce cri que toi tu fais surgir à différents moments de l'histoire humaine, toi qui es éternel, que ce cri, tu l'adresses à chacun, à chacune ce matin. Que Seigneur, tu parles à chaque cœur pour que les ténèbres qui se sont abattues dans la vie de mon frère, de ma sœur, de cet ami qui est là ce matin, que ces ténèbres, maintenant, laissent place à ta lumière, Seigneur. Que les ténèbres qui ont pu obscurcir la vue de quelqu'un qui s'écrit comme David, mon péché se trouve tous les jours devant mes yeux. Que cette personne, à la fin de ce culte, puisse entendre le cri qui sort de ton cœur, Seigneur. Et qu'elle puisse dire, j'ai été pardonné. Non seulement pardonné, mais purifié de tout péché. Ma prière, Seigneur, par ton cri ce matin qui nous réveille, purifie nos cœurs, purifie nos pensées, purifie, Seigneur, nos intentions, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Le texte que je vous invite à lire, c'est dans Luc au chapitre 2, qui est justement l'histoire de Noël, le récit de Noël. Et je vais le prendre et après je vais prendre trois aspects qui soulignent sur la façon dont la Bible nous parle de Jésus à sa naissance. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. C'est Luc au chapitre 2. Là, j'ai lu le verset 1, je continue avec le verset 2. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, la maison du pain, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. On va continuer ce texte qui est assez long, et parce qu'il est long, je précise que si vous voulez regarder aussi le culte de la semaine passée, allez-y, parce que cette histoire, elle nous a été racontée aussi par les enfants de la communauté. Je vois Johan qui est là-bas aussi, qui a chanté même ici avec Esther, il jouait Joseph et Marie. Et vraiment, gloire à Dieu pour ce que vous avez fait. Ça m'a vraiment beaucoup inspiré en lisant ce texte. Je vais continuer avec le verset 8. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. On les a vus, les bergers. Hein? Il y en a encore Nathan, James qui étaient là. Vous étiez avec Sylvain. Ah non, il y avait des mages, mais ce n'est pas encore tout ça. Ok. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. L'ange, elle est là, Tiffany. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. On le voit de nouveau, un cri dans la nuit, n'ayez pas peur. Ce matin, là où tu es, entends ce cri, n'aie pas peur, car je t'annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Quel signe! Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, avec toute la communauté de Carouge, avec Rebecca, avec Célé qui nous ont conduits dans la louange, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. On l'a chanté dans plusieurs chants, alléluia. Et c'est même marqué devant la chapelle aussi sur le mur. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem. » Ils se mettent en marche sur cette parole. Et voyant ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître, ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu conformément à ce qui leur avait été dit. Merci Seigneur pour ta parole. On peut passer donc aux différentes remarques, aux différentes choses qu'on peut prendre de ce texte. Tout d'abord, Jésus naît lors d'un événement dont la portée est planétaire. Vous savez que l'Empire romain, c'est un empire, dans le temps où Jésus est apparu, il y avait ce qu'on appelait la paix romaine. C'est qu'ils avaient fait des conquêtes et ils ont installé un temps de paix où en fait les religions étaient autorisées dans une certaine mesure et sous certaines conditions et où en fait l'Empire a pu prendre beaucoup d'espace parce qu'il autorisait différents peuples dans ce qu'il appelait des colonies et il a fait des provinces et il s'est étendu. Et en fait, à ce moment-là, ce que Luc veut nous dire, l'évangéliste, il veut nous dire, vous voyez, l'enfant, il ne l'appelle pas forcément souvent Jésus hein, dans ce texte, il l'appelle l'enfant, et ce sera lié à une autre remarque. C'est, il est apparu dans un temps où, en fait, un des plus grands empereurs de l'Empire romain, il recensait tout le monde connu. Et c'est en tout cas ce sur quoi l'auteur, l'évangéliste, comme on l'appelle, il veut attirer notre attention. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre habitée. C'est quelque chose qui se passe certes dans une petite région, mais qui va avoir un impact et qui est ancré dans l'histoire de toute la terre habitée, comme il la considérait à l'époque. La deuxième remarque, son ancrage est fidèle à la maison de David. Avant de dire que c'est Jésus, il dit « va à Bethléem, la ville de David », parce qu'il était justement de la descendance de David. Et il veut montrer son ancrage et montrer en fait son profil idéal dans le peuple dans lequel il naît, Israël, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, on le voit au verset 4. Et la troisième remarque, c'est la plus importante ce matin, pour rester justement sur ce que j'appelle le paradoxe de la façon dont Dieu se présente sur la terre. Le texte, il insiste sur l'humilité dans laquelle Jésus apparaît sur terre et la gloire qui est manifestée dans les lieux célestes. Et ça aussi, on l'a chanté. Il y a ce contraste entre une lumière qui brille dans les lieux célestes avec les anges, dans ce qu'on appelle le ciel, et en même temps, sur la terre, il y a une humilité. On voit ça au verset 7 et ensuite au verset 13. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre. Paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Et ça, je crois que c'est aussi ce cri dans la nuit. La nuit, ce n'est pas seulement la peur, mais l'image de la nuit, c'est aussi une association d'une cécité, un aveuglement. Vous voyez, quand vous roulez sur une route, il n'y a presque pas de lumière. Vous êtes sur une autoroute et tout d'un coup, vous attendez, il n'y a plus de voiture. Vous dites, ah enfin, je mets les grands phares. Et je peux voir et tout d'un coup, je vois bien, il y a les panneaux avec les voitures les plus récentes. Vous voyez vraiment jusqu'à loin. Voilà, j'ai allumé la lumière, je vois clairement. Il y a ce contraste. Et en fait, là, je crois qu'il y a quelque chose aussi qui nous est dit de ce que Dieu veut que nous, on fasse quand il agit. Il veut qu'on fasse de la place dans nos cœurs. Ce n'est pas parce que l'enfant a dû être mis dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place que ça doit rester écrit comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à notre départ. Parce que si justement on ne fait pas de place dans nos cœurs, c'est dans la partie la plus infime, peut-être la plus pouilleuse, la plus humble, mais la plus petite, la plus basse de nos vies, que Dieu peut se manifester. La Bible dit dans un autre livre, c'est le livre de Job, dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'être humain qui ne prend pas garde. Je crois que ça a vraiment quelque chose de l'évangile en fait, ce contraste, c'est que Dieu veut nous parler, mais la seule place qu'on lui laisse, peut-être 2 heures à la fin de la semaine, le dimanche matin, ou alors à la fin de l'année, Noël, un culte, une journée sur 365. Et ce n'est pas un reproche, ce n'est pas une culpabilité ce matin, mais c'est le Seigneur, il dit, et si tu allais vers les bergers, et si tu me laissais te montrer la gloire qu'il y a dans le ciel pour cette petite journée que tu as passée à l'église. C'est une bonne nouvelle parce que de dire, peut-être ce jour que tu passes à l'église, c'est quelque chose qui est en train de te bénir pour toute l'année, qui est en train de te faire du bien. Pas parce qu'il y a une réciprocité et que je suis content et que je te donne un sugus parce que tu as fait une bonne action. Mais parce que simplement, je suis un bon maître et je veux ton bien. Et je veux faire chanter en cœur l'armée céleste et mes anges dans ta vie. Parce que c'est moi ton père, parce qu'avant ta naissance, je connaissais déjà chacun de tes jours. Je les avais devant moi, alors que tu n'étais qu'une masse informe. Il le dit dans sa parole. Et c'est ça l'histoire de notre Dieu à Noël. C'est ça la joie. C'est pour ça qu'on aurait pu passer toute la matinée que à chanter des louanges. Pour dire, mais Seigneur, reçois la joie qui déborde de nos cœurs de ce jour de Noël. Qui est tellement paradoxal parce qu'il fait noir. Mais heureusement qu'il fait noir. Parce que c'est ce qui nous permet de voir les étoiles tout en haut du sapin. Et qui nous permet de voir cette lumière. Et on va rester donc sur ces dernières remarques avec le contraste, avec une histoire pour enfants. Et oui, c'est une petite place qu'on a laissée à Dieu dans notre vie avec Michael, mon fils aîné. Et il regardait ce film, L'étoile de Noël. Et ça nous a vraiment dit quelque chose à ma femme et moi de l'histoire de Noël et de ce que Dieu veut nous transmettre à Noël. Et c'est bien, puisqu'en plus, en ce dernier culte de l'année, il y a plusieurs enfants qui sont restés aussi. Il y en a certains, vous êtes un peu trop grands pour ce film. Mais voilà, j'espère que cette illustration, elle va vous parler. Dans cette histoire, on voit l'histoire de Noël. Tu peux laisser l'image. On voit l'histoire de Noël dans les yeux de cette âne qui regarde Jésus. Et je vous le donne en mille, cet âne, hein, il a un nom biblique. Il s'appelle Boz. Et puis la petite brebis, là, la petite agnelle, elle s'appelle Ruth. Et justement, c'est l'histoire de certains ancêtres de Jésus. Et c'est à travers les yeux des animaux qu'on voit cette histoire. En fait, Boz, il veut sortir de chez lui pour rejoindre une caravane royale. Il rêve d'être avec des chevaux alors qu'il n'est qu'un âne. Et il veut être là et il se voit, il rêve plusieurs fois dans le film, en train de marcher fièrement devant une caravane, et puis il y a des rois et tout ça qui marchent pour amener cette caravane royale avec un seigneur dans son pays. Et du coup, il est avec un ami à lui qui est une colombe, et puis ils essayent de rejoindre cette caravane royale. Mais sur son chemin, il croise Marie qui est là, et puis qui est tout empruntée parce que justement, elle est enceinte alors qu'elle est à peine fiancée à Joseph. Et puis elle doit aller à Bethléem pour ce recensement. Et lui, il va dire, bon ben, j'accompagne du coup Marie comme je suis un âne, je peux prendre la charrette de Joseph et puis je peux les aider. Et sur le chemin, on voit qu'il y a les hommes d'Hérode qui viennent pour essayer de tuer ce roi qui doit naître, puisque Hérode, il a été informé par les mages qu'il y avait un roi des Juifs qui devait naître, et ils voient ça comme une menace. Et donc, ils ont toujours des gens à leur troupe, et c'est un soldat romain qui a deux chiens, donc, puisqu'on voit aux yeux des animaux, et puis ils attaquent Marie et Joseph, et ils veulent aussi tuer ce roi qui n'est pas encore né à l'époque. Et donc, on voit tout ce chemin vers Bethléem, et à un moment donné, Joseph, il est tellement énervé, parce qu'il ne comprend pas qu'il y a des gens à ses trousses, et puis qu'il y a justement un danger, et que l'âne essaye de les tirer de ce danger, qu'il s'énerve contre l'âne. Et l'âne, il dit, ok, ben, j'en ai marre, je vais m'en aller, je vais aller rejoindre ma caravane royale. Et puis il part avec la colombe qui est toute contente, qu'on voit aussi hein, juste à côté de Jésus. Et puis elle est là contente parce qu'elle dit, enfin on va pouvoir rejoindre la caravane royale. Et puis juste arrivé devant la caravane royale, devant son rêve, il est à bout touchant. Et il dit, mais je ne peux pas, il y a quelque chose qui me lie à Marie, je dois retourner vers Marie. Et du coup, il dit à son ami qui comprend, et puis il retourne voir Marie. Et en fait, c'est juste au moment où Jésus naît que les mages arrivent avec leurs chameaux et qu'ils voient tout ce monde-là, les animaux et les hommes, s'agenouiller devant la mangeoire, qui comprend en fait qu'il était déjà en train de servir une caravane royale. Il voit tout ce monde et il dit, le roi ? Et il va voir Jésus et il est étonné, c'est l'image qu'on voit ici. Mais donc j'étais en train de servir une caravane royale. Et je crois que ça dit quelque chose de nos vies. En fait, des fois, on est là et on se dit, mais qu'est-ce que je fais dans cette petite bâtisse ? C'est quoi cette chapelle de la rue du Centenaire 8 ? Et puis le soir, il y a des petites décorations de Noël, mais quand je vois M-Park, c'est glorieux, ces décorations. Hein ? Mais c'est ici qu'il y a une caravane royale, spéciale. Quand les bergers, quand les mages entendent les anges, ils disent, le sauveur du monde, il sera une bénédiction pour tout le peuple. Il y a des gens peut-être qui se moquent même de cette chapelle. Ils disent, mais c'est quoi cette chapelle? Et puis ils veulent construire. Et puis ils nous maudissent peut-être tous les jours. Et c'est comme Jésus. Le motif de la malédiction arrivera à la croix. C'est marqué dans certains textes, maudit celui qui est pendu au bois. Et il est là et il est moqué, il est humilié et il dit, je suis là pour vous sauver. Et les anges disent, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Et en fait, c'est encore plus beau que cet âne, il ne sache pas la portée, la puissance de qui est dans le ventre parce qu'il décide avant de savoir, je dois aller là-bas. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour de décision où beaucoup vont dire, je dois m'ancrer dans cette communauté ici, à la rue du Centenaire 8. Je dois décider vraiment de donner ma vie à Jésus et de le suivre comme Seigneur et Sauveur. Parce que au-delà de tout ce que j'ai dans ma vie, c'est lui qui peut me sauver. On peut avancer. Une vie paradoxale. À sa naissance, il naît comme un marginal. C'est Jésus. Durant sa vie, il a la réputation de venir d'un village dont il ne sort rien de bon, Nazareth. N'est-il pas le fils du charpentier ? Qu'est-ce qu'il va nous apprendre sur les textes ? On a nos lévites, on a nos grands prêtres parmi les lévites, on a nos docteurs de la loi, et c'est un fils de charpentier qui nous dit qu'il est le sauveur. J'imagine parmi nous, si on a eu un enfant qui a fait toutes sortes de crasses dans sa vie, il nous a peut-être même des fois, il s'est moqué de nous, il nous a fait mal, et puis tout d'un coup il arrive à un certain âge, il dit « je suis le sauveur du monde ». Ou quelqu'un d'autre dit de lui qu'il est le sauveur du monde, mais comment on peut le croire ? Il meurt d'une mort infâme, et pourtant il est le sauveur du monde. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre aujourd'hui ? On va finir sur ces leçons qu'on peut tirer de cette vie paradoxale. Les solutions divines peuvent surprendre notre représentation de certaines notions humaines, y compris celles de salut ou de confort. Qu'est-ce que ça veut dire en français ? Je pense à une chose quand je dis salut, quand je dis je veux être sauvé. Peut-être certains parmi nous ils disent, moi je veux être sauvé, c'est-à-dire avoir
une belle maison avec un jardin dans le meilleur quartier de la ville ou dans une ville de votre choix. Je dis à dessein, je ne donne pas de ville ou de quartier. Et puis là, j'aurai même un chien. Et puis, il n'y aura pas de danger de sécurité. Et puis, comme voiture, je pense que j'aurai une belle marque, mais propre. Je ne dis pas de marque à dessin. Électrique. Et puis, si je vais encore dans mes rêves les plus fous du salut, j'aurai même un hélicoptère, mais propre aussi, pour éviter les bouchons. J'insiste exprès et je caricature pour dire, quand on lit la Bible, des fois, on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas vu Jésus? Pourquoi ils n'ont pas suivi? Parce qu'en fait, celui qui raconte l'histoire, le narrateur, il veut toujours nous montrer le cœur de l'histoire. Et donc, il nous emmène avec lui et on a toutes les informations. Mais dans nos vies, quels sont les lieux où on n'écoute pas ce Sauveur? Quels sont les lieux où on ne lui fait pas une place? Quels sont les lieux où on se représente Jésus d'une manière peut-être mauvaise, à un niveau individuel ou à un niveau global? Peut-être que parmi nous aussi, si je reparle de ce bâtiment, il y en a certains qui se disent, mais si demain on avait tout l'argent, on construit ici, on fait même un quartier chrétien et on rachète tout, ouais, gloire à Dieu. Mais pourquoi Dieu veut que sur la terre, ça soit humble? Ça soit apparemment sans valeur. Si vous allez un peu plus loin dans la Bible, en amont, dans l'Ancien Testament, dans les juges, vous voyez l'histoire d'une guerre, une bataille avec un homme, Gédéon. Il va en guerre, il a ramené des gens avec lui. Il dit, ouais, cette fois, je suis parmi les élus pour sauver le peuple d'Israël. J'ai une belle armée. Il regarde, on aime tous être dans une équipe qui gagne. Il regarde, il dit, ouais, j'ai les meilleurs. Dieu lui dit, renvoie-les à la maison. Mais, Seigneur, on va mettre nos vies sur le champ de bataille. C'est pas comme ça que je gagne. C'est pas comme ça que je gagne. Waouh. Ok, les gars, vous êtes super, mais rentrez avec vos armes, rentrez à la maison. On a une autre arme. Je l'ai dit en tremblant. Seigneur. Et puis là, il dit, vous êtes encore trop nombreux. Fais encore un petit test à certains soldats. Ceux qui échouent, tu les fais partir. Mais ceux qui échouent, ce seront les meilleurs. Oh Seigneur, comment tu m'as dit, tu veux m'envoyer au casse-pipe? Tu veux m'envoyer à la mort ou tu veux m'envoyer à la victoire? À la victoire. Mais je veux qu'au moment où tu gagnes, tout le monde sache que c'est l'Éternel qui t'a donné la victoire. Au moment où cette église sera bâtie, tout le monde va voir, ils vont dire, ça, ce n'est pas des êtres humains qui ont pu faire. L'Église va même pouvoir se vider. Même à Genève, les gens vont pouvoir dire, ah, on a réussi. Les agents de Satan, ils vont pouvoir dire, c'est bon, personne ne prêche plus l'Évangile, personne ne croit plus en cette folie de Jésus. C'est quoi Noël? Disent juste, joyeuse fête, vous arrêtez de dire joyeux Noël. Mais ils vont retourner à la maison, ils vont voir que parmi ses propres rangs, son fils a été touché par la grâce de Dieu. Guéri instantanément, il donne la gloire à Dieu. Je me suis battu contre la foi partout, mais dans ma propre maison, Jésus se manifeste à nouveau. Alléluia! Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers tous les êtres humains. Et ça, c'est en lien avec la deuxième leçon. Dieu n'a pas besoin que les êtres humains préparent une célébration selon leurs standards. Il n'a pas eu besoin que le roi Hérode prépare le temple de façon magnifique pour accueillir le Sauveur, le roi des Juifs. Il a fallu une mangeoire. Mais surtout, il a envoyé ses anges, l'armée céleste, le célébrer. J'imagine les bergers dans un champ, ils ne s'attendaient pas à voir ça. Ah, moi je prie pour voir cette armée d'anges. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir tes anges à l'œuvre chaque jour dans nos vies. Vous savez, il y a une histoire d'une jeune fille, c'est un témoignage que j'ai lu. Elle était dans une ruelle toute sombre et elle voit un homme qui fumait une cigarette au bout, elle avait peur. Elle a juste prié, Seigneur, protège-moi. Elle est passée, il n'a rien fait. Le lendemain, elle apprend qu'il y a eu un viol à cet endroit-là. Quand elle apprend, elle n'a aucun doute. Elle va à la police, elle dénonce cet homme qui s'est fait arrêter. Quand elle peut avoir une confrontation avec lui, elle lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas violenté? Il dit, mais t'es folle. Et les deux hommes qui étaient avec toi? Elle ne les voyait pas. Mais lui, il avait vu ses anges. Je vous assure, prions, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Vous savez, un jour, on était ici, il y a un homme qui est venu, Bruce, il avait même prêché ici, et il est venu au groupe de jeunes. On vit la soirée du groupe de jeunes, à un moment donné, il me dit, est-ce que je peux donner mon témoignage ? Ah, j'ai dit, mais pourquoi vous venez faire du désordre ? C'est la soirée des jeunes, monsieur, vous avez déjà 60 ans. Bon, j'ai dit, 5 minutes. Il a donné son témoignage, une puissance qui s'est libérée. On a commencé à louer le Seigneur. Pendant 15-20 minutes, à la fin, il nous a dit, quand on louait, je voyais juste son ange ici, 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 ici encore, les quatre coins, les anges de Dieu campent ici. Personne ne pourra déboulonner cet endroit. Dieu a posé sa main ici. Amen. Je le crois. Tu peux l'acclamer même plus fort, ma sœur. Ouais, alléluia. Et c'est ça la grandeur et la gloire de Dieu, c'est que l'action de Dieu n'est jamais plus brillante et glorieuse que lorsqu'elle perce les ténèbres. Vous savez, mon père a été pasteur ici pendant plus de 20 ans. Maintenant, il est à la retraite, mais il est toujours ici. Il est toujours pasteur par la force des choses. Ce n'est pas un titre, mais pour Dieu, il est pasteur. Et en fait, il a été guéri miraculeusement par Dieu. Et quand il a été guéri miraculeusement par Dieu, c'était une joie pour nous. Ça a amené toute la famille, en fait, à donner sa vie à Dieu. C'était en 92. Et en 2006, 5 ans après être arrivé ici à l'église, 6 ans, il a commencé à rechuter, finalement, dans sa santé. Et aujourd'hui, il est en chaise roulante. Et en fait, quand on regarde son parcours et on regarde qu'il était en chaise roulante, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ses premières années ici, peut-être, on voyait un renouveau, quelque chose de grand qui se passait. Mais en fait, spirituellement, la gloire de Dieu s'est plus manifestée ici depuis qu'il est en chaise roulante qu'avant qu'il soit en chaise roulante. Et ça nous dit quelque chose encore de comment Dieu agit. Et il y a chacun, il est donné selon ce qu'on peut supporter. Ce n'est pas tout le monde qui va être mis à terre de cette manière-là. Mais il a été mis à terre et je crois qu'une des leçons que Dieu nous apprend, c'est que ne crains point, crois seulement. Aujourd'hui, on peut avoir toutes sortes de peurs, on peut avoir toutes sortes d'angoisses, mais il y a un cri qui vient et qui nous dit « ne crains point, crois seulement ». En cet hiver, la situation, elle paraît encore pire qu'au début du coronavirus. Il y a des gens, ils entendent des règles, maintenant je dois être vacciné, guéri, revacciné, revacciné encore, et puis je dois encore faire des tests tous les jours, sinon je ne peux pas entrer. Et vous dites « mais quand est-ce que ça va finir tout ça ?» Les ténèbres sont plus sombres encore qu'au début de cette crise. On ne va jamais en sortir. Non, ne prononçons pas des paroles comme ça. Parce que les plaies d'Égypte, elles ont découragé le peuple d'Israël. Quand on regarde. Mais en fait, c'était la libération n'était pas loin. Et je crois qu'à ce Noël, ce qu'on peut dire, c'est waouh, alors que les ténèbres sont là, spirituellement ou humainement, autant que la nuit, la neige, en fait, la gloire de Dieu est là. Et je prie que chacun ce matin, chacune ici puisse dire, merci Seigneur pour ta gloire, la gloire que tu déverses à Noël. Et je vous invite à prier pour ça, pour dire Seigneur, merci pour ta gloire. Et pour celles et ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever. Dans un premier temps, on va le remercier pour la gloire qu'il manifeste dans ces lieux à Carouge. Seigneur, merci pour la gloire que tu manifestes dans ce lieu. Est-ce qu'on peut encore prendre lumière du monde ? Ouais. Alléluia. Continuons à juste prier, adorer le Seigneur. Merci pour la gloire que tu déverses à Carouge. Ta communauté, Seigneur, ici à Carouge, elle est entre tes mains, Seigneur. Ne vous en faites pas si j'entends aussi vos voix en même temps que je prie. Vous pouvez aussi élever vos voix. Dire merci, merci Seigneur, parce qu'ici encore, des gens qui te louent, qui t'adorent, Seigneur, dans un temps qui peut paraître sombre, qui peut paraître nébuleux, Seigneur, qui peut paraître compliqué, un temps compliqué. Seigneur, tu es le Très-Haut. On dit dans les lieux Très-Haut, gloire à Dieu, tu es toi-même le Très-Haut, le maître des temps et des circonstances. Et je bénis ton saint nom, Seigneur, pour la gloire que tu manifestes en ce lieu. Merci Seigneur pour ce projet de bâtiment. Merci de bénir tous les membres de la société immobilière qui travaillent avec d'arrache-pied, afin que cette communauté, Seigneur, voie ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous donner un nouveau courage en ce dernier culte de l'année 2021. Tu veux nous donner, Seigneur, un nouvel espoir qui va nous faire crier avec les anges, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour les épreuves. Merci, Seigneur, pour les difficultés, parce qu'elles me rappellent que la fin est proche et qu'à la fin, c'est toi qui as le dernier mot. Merci, Seigneur Jésus, parce que je n'ai pas besoin de savoir quand viendra cette fin, mais je sais que dans ma vie, je dois simplement marcher chaque jour dans ta volonté, Seigneur. Alors purifie mes ambitions, purifie ma vision, purifie mon cœur. Donne-moi de voir comme toi tu vois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Dans le nom précieux de Jésus.